Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Canal Académie. L'histoire, vous le savez, est généralement écrite par les vainqueurs et les défaites par les vaincus. Dès lors, l'historiographie, et surtout l'historiographie du temps présent, peut parfois pécher ou tomber dans une vision unilatérale, une vision nationale, parfois nationaliste, disons le mot, dans l'interprétation des faits, des événements et dans l'interprétation de l'œuvre des hommes. En résulte des mythes, en résulte des légendes aussi, qui parfois, avec le temps ou bien alors tout simplement avec l'éclairage des sources étrangères, peuvent tomber ou à tout le moins être nuancées. Au fil du temps, même si les passions des hommes, même si leurs intérêts ne changent pas, les opinions, elles, évoluent. Autre temps, autre mœurs, dit le proverbe, qu'on le veuille ou non, qu'on le regrette ou pas, la vision de l'histoire évolue au fil des décennies et des siècles. De la Première Guerre mondiale, les places de nos villes et de nos villages, les cénotaphes de nos églises sont là pour nous rappeler le traumatisme qu'a vécu la France occupée. Le paysage de cette France du Nord et du Nord-Est garde encore, d'ailleurs, les stigmates des affrontements, des bombardements et de ce face-à-face dans les tranchées. Aujourd'hui, et après la mort du dernier poilu, Lazare Ponticelli, la lecture de l'événement en tant que tel est moins soumise aux passions, passions pourtant bien réelles il y a encore quelques années. L'émission « Un jour dans l'histoire » vous propose de revisiter un mythe de cette guerre, la Grande Guerre comme on l'a qualifiée à l'époque, le mythe du maréchal Foch. On garde de Ferdinand Foch l'image d'un vainqueur, le vainqueur de la Marne, on garde aussi l'image du commandement unique et de la signature de Retonde. En revanche, nous connaissons moins son combat, notamment son combat d'après-guerre, et bien moins encore, tout simplement, ses origines, sa formation intellectuelle et sa jeunesse. Alors, qui fut donc le maréchal Ferdinand Foch, Foch du mythe à la réalité? C'est ce que je vous propose de voir avec Jean-Christophe Notin. Jean-Christophe Notin, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à l'invitation de Canal Académie.
Merci.
C'est la deuxième fois que je vous reçois à ce micro. Je renvoie nos auditeurs à l'émission que nous avons enregistrée ensemble sur votre ouvrage « Les vaincus seront les vainqueurs », un ouvrage paru aux éditions Perrin. Vous avez publié plusieurs ouvrages d'histoire, vous êtes spécialisé sur l'histoire militaire. D'ailleurs, la campagne d'Italie, qui est un de vos ouvrages également paru chez Perrin, a reçu un prix de l'Académie française. Et vous venez de publier, toujours chez ce même éditeur, une biographie de Ferdinand Foch. Et si je puis dire, vous bouleversez beaucoup d'idées reçues. Jusqu'à présent, on peut dire que Foch bénéficiait d'une auréole. Et comme toute auréole, ma foi, elle est un peu intouchable. Alors, vous ne faites pas un portrait à charge, vous nuancez votre propos, mais surtout, en fait, votre travail au fond, et ce sera ma première question, et elle est importante dans l'émission Un jour dans l'histoire, c'est la question des sources. Vous avez bénéficié de nombreuses sources qui, jusqu'à présent, n'avaient pas été exploitées.
Oui, c'est d'ailleurs la raison principale pour laquelle je me suis lancé dans ce travail. Parce que traiter un sujet qui a été déjà traité des dizaines de fois et de manière complète, ça n'a guère d'intérêt. Donc j'ai fait un très gros travail déjà de rassemblement de fonds, d'archives, essayer de voir un peu ce qu'il y avait sur la période et l'homme. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en effet, il y avait de très nombreux fonds et archives, surtout familiales, qui sont les plus difficiles à trouver, qui étaient exploitées. Et c'est donc ce qui m'a lancé dans ce long travail. Parce que très étonnamment, donc finalement, Foch est mort en 1929, ça fait à peu près donc 80 ans. Et donc finalement, depuis 80 ans, nous avons eu droit à peu près une trentaine de biographies, qui sont plus des hagiographies, mais ça va, c'est très lié au contexte. Il est mort entre les deux guerres, donc ce n'était pas le moment non plus de désinguer les idoles. Et puis après, est arrivée la Seconde Guerre, donc les historiens se sont penchés sur la Seconde Guerre, les drames que l'on sait. Donc c'est finalement très récent qu'il y a eu des études assez récentes. Les plus récentes de Foch datent des années 90. Ils sont surtout l'œuvre d'Américains, comme assez fréquemment de nos jours, malheureusement, sur les grands militaires français. Et donc, du côté français, la dernière biographie datait de 87, de l'académicien Jean Autain. C'est quand même, on peut dire, tout de même une hagiographie, donc relativement peu critique. Et donc, je me suis dit qu'il y avait la place pour une étude un peu plus fouillée et équilibré.
Alors justement, quel type de sources vous avez pu consulter? Vous êtes allé notamment en France, mais aussi à l'étranger.
Oui, bon, alors de manière classique, il y a les archives militaires à Vincennes, les archives nationales, la bibliothèque nationale également, puisque de nombreux généraux ont déposé leurs carnets, manuscrits, le général Buat, entre autres. Et donc à l'étranger, bien entendu, les fonds, c'est malheureusement un peu le petit reproche que je ferai à mes confrères, de ne pas assez exploiter les fonds de nos alliés de l'époque. Il y a un fonds considérable en Angleterre, donc soit les National Archives, ou le fonds Egg qui est à Édimbourg, enfin en Écosse. Et puis les fonds américains, le fonds Pershing qui est assez fantastique, bien entendu le fonds national à Washington. En Italie, vous avez également des fonds qui sont vraiment très très fouillus, je dirais. Et bon, il y a évidemment le côté allemand, mais pour l'aspect Foch, je n'ai pas trouvé grand-chose.
Alors, ce qui est étonnant, c'est que vous dites, à un moment dans votre ouvrage, sur la Première Guerre mondiale, c'est tout ou rien. C'est-à-dire que du côté français, soit on juge le français de manière très négative, soit on le juge de manière très positive. Il n'y a aucune nuance, aucun juste milieu.
C'est très exactement lié à la période. Foch mort en 29, donc on ne fait que l'encenser jusqu'en 29. Après-guerre, c'est la Seconde Guerre, je veux dire, ce n'est pas le moment de dire du mal de lui, non. Donc il y a eu finalement très peu d'ouvrages. Et ce n'est qu'en de manière très récente, une quinzaine, vingtaine d'années, je dirais, qu'on voit apparaître des ouvrages un peu critiques, mais alors qu'ils sont vraiment incendiaires. On compare Joffre, et c'est valable en France et en Angleterre, aux États-Unis. Donc on compare les grands généraux à des ânes, c'est la figure la plus commune. On dit des ânes qui commandaient des lions. On a inversé une formule de l'époque qui disait des lions commandant des ânes. Hein, c'était très péjoratif pour les hommes de troupe. Et donc Foch est pour le moment resté, à l'échelon lion. Et heureusement, il n'est pas encore tombé dans la catégorie âne. Enfin, personne ne s'en est encore chargé.
Et vous ne le faites pas d'ailleurs, puisque vous présentez à la fois ses mérites, mais également ses erreurs, ses désobéissances. Ma foi, comme tout homme, comme tout homme ici-bas.
Foch est loin d'être un saint ou un génie, donc il commet des erreurs. Il a des éclairs magnifiques et il a des qualités dont on parlera. Mais il a commis des erreurs. Des imprudences, des désobéissances.
La première surprise de votre ouvrage, dès les premières pages, c'est qu'on est assez étonné de voir qu'il y a peu de choses sur sa jeunesse et sur sa formation, sur ses lectures, sur les rapports avec ses parents.
Oui, bah là je crois que c'est valable un peu pour tous les grands personnages du 19e. On a finalement peu de sources pour des personnes issues de la bourgeoisie comme Foch. Il faudrait connaître des gens qui l'ont approché, connu, des familiers. C'était pas une époque où on écrivait non plus beaucoup, on publiait en tout cas. Donc c'est vrai que sur l'enfance de Foch, jusqu'à son accession, je dirais, à l'X, à la Polytechnique, on a relativement peu de choses. C'est une vie de bourgeois de province assez classique, un père fonctionnaire de préfecture, et donc très classique, école de jésuites, préparation à l'IX, et ensuite donc polytechnique.
La formation ignatienne, l'esprit ignatien revient régulièrement dans votre ouvrage.
Oui, ça c'est fondamental. La famille est très croyante, lui-même est très croyant, pratiquant. Et surtout, les jésuites enseignent, on retrouve ça un peu chez Leclerc, une formation, je dirais, qui dirige donc un peu tout le sens de la vie de Foch, qui est toujours toujours donc de se fixer un but dans la vie et de tout faire pour y accéder. Donc finalement, quels que soient les moyens, essayer d'accéder au but. Et c'est vraiment la caractéristique principale de la vie de Foch, un déterminisme et une énergie à toute épreuve. Et que lui enseignait donc les jésuites.
Quel est le rôle de 1870 chez Foch? Est-ce qu'il est marqué? Est-ce que le jeune Ferdinand est marqué par la défaite? D'autant plus qu'il va rencontrer Napoléon III.
Oui, c'est ça qui est assez amusant. Donc au moment de juillet 70, il est en train de préparer Polytechnique au collège Saint-Clément à Metz, où le Napoléon III va venir installer son PC pendant quelques temps et ensuite surtout fuir au moment de la débâcle. Et donc, en effet, 1870, ça marque au fer rouge Foch. C'est vraiment l'impulsion à sa carrière. Et toute sa vie, il va essayer de rattraper cette épouvantable défaite. Et ça explique beaucoup, beaucoup de son enseignement et de son comportement en 14-18.
Est-ce que vous avez pu voir quel était le moment où il décide de se lancer dans la carrière militaire? Est-ce qu'il y a eu une hésitation? Est-ce que plusieurs voix se sont présentées à lui? D'où vient cette vocation?
Alors, les jésuites l'ont très tôt orienté vers les mathématiques. C'est là où il a montré un certain don. Oui. Donc, Polytechnique est venu très tôt. Ça, c'était l'élite. À partir de Polytechnique, on sait qu'il a commencé donc à réfléchir fortement aux armées, je dirais, à la fin du lycée, donc début des écoles préparatoires. On le voit, je cite une lettre où il explique que, en effet, l'armée, ça correspond, je dirais, à sa mentalité, à ce qu'il veut faire de sa vie. Et donc ensuite, une fois qu'il est à Polytechnique, il choisit l'artillerie pour la deuxième année. Et là, sa carrière est sur les rails.
C'est un bon élève, mais encore une fois, c'est un parcours classique.
Oui, c'est très classique. Même le général Végan et son adjoint de Miry l'avaient reconnu. La carrière de Foch jusqu'à, on pourrait dire, le début du 19e siècle est très, très classique. Donc, c'est un très bon élève qui a de très bonnes notes. Il réussit l'X dans il rentre à l'X dans un bon rang. Et par la suite, quand il commence sa carrière d'officier, il est bon, il a de très bonnes notes. Mais on ne peut pas non plus dire que c'est une fois de plus un génie. C'est pas on voit pas en lui non plus l'officier qui va révolutionner l'armée, hein. C'est un bon officier.
Alors va poindre peu à peu le théoricien, il va être professeur et très vite, au fond, on en revient à ce que nous disions sur sa formation chez les jésuites, très vite sa théorie va poindre le bout de son nez.
Oui, et de manière un peu...
nous sommes à quelle période?
Donc là, c'est les années 1880, 1890 à peu près. Après l'X, il commence sa carrière d'armée, il fait l'école de guerre. Il a un parcours très classique, plus officier. Et puis, il est appelé à être professeur à l'école de guerre. Et c'est là où, je dirais, il est forcé en quelque sorte de mettre au point ses cours, d'élaborer une doctrine militaire. Et là, évidemment, c'est là que ça rappelle le souvenir de 1878 et des guerres napoléoniennes, hein, qui sont son grand foyer de réflexion. Et c'est là où il lance, donc, en quelque sorte, la doctrine de l'offensive à outrance, a pu-t-on dire ensuite, début 19e. Lui, c'est l'offensive, c'est l'attaque, c'est le triomphe de la volonté, dont il commence à élaborer les grandes lignes donc dans les années 1886-1890. Et qu'ensuite, il va affirmer vraiment en dogme, mais là, il va vraiment l'impulser dans toute l'armée quand il va prendre la direction de l'école de guerre.
Le principe de l'attaque décisive, vous le définissez, c'est à la fois un critère mécanique, l'action et la réaction des forces, un critère psychologique, mais aussi un critère moral.
Oui, ah voilà, c'est le pendant, je dirais, de la théorie Foch, c'est l'attaque décisive, donc c'est par l'attaque qu'on peut remporter une victoire et qu'on peut soumettre l'ennemi, mais cela suppose les forces morales, c'est-à-dire en fait ce qui a manqué, pense Foch, en 1870 aux forces françaises, c'est-à-dire la foi en la victoire. Pour Foch, si on a la foi, si on a vraiment la conviction absolue de pouvoir l'emporter, on peut l'emporter. Et comme il dit, il y a une bataille est perdue lorsqu'on considère qu'elle est perdue. Ça montre tout, et ça aura des travers, évidemment, dans les années de guerre.
Nous verrons plus tard en quoi précisément ce caractère est lié à celui d'un Clémenceau. Peut-être un dernier mot avant une première pause. Nous arrivons à l'époque des grandes affaires de la Troisième République, l'affaire des fiches. Comment Foch voit-il tout ça, se positionne par rapport à tout cela?
Alors, Foch, c'est un républicain, je dirais, non pas de conviction, mais je ne dirais pas non plus de force. Hein. Il s'est rallié, en quelque sorte, à la République. Donc, évidemment, il a toujours un œil assez critique sur toute la vie politique de la fin du 19e. L'affaire Dreyfus, il est bien entendu anti-Dreyfusard, hein, comme l'essentiel
comme
des officiers
le monde à
de l'époque.
Ouais.
Hein, faut pas le distinguer d'une manière particulière. Et l'affaire Dreyfus, il en est une des victimes. Plus ou moins, parce qu'étant vu comme un officier catholique, ayant fait ses études chez les jésuites, ayant un frère jésuite, ayant mis ses enfants chez les jésuites, et le travers des forces morales, que certains interprètent bien entendu comme la force divine, hein, on fait vite le lien. Donc il est mis au banc de l'armée en 1901, il est sorti de l'école militaire, et il part en pénitence régimentaire à Laon.
Jean-Christophe Notin, nous nous retrouvons dans un instant.
Canal Académie vous ouvre les portes de l'Académie des sciences. Les académiciens se prêtent au jeu du portrait dans l'émission En habit vert, répondent aux questions de société dans Éclairage et vous présentent leurs derniers ouvrages dans Au fil des pages. Retrouvez Yves Coppens, Étienne-Émile Beaulieu, Albert Fert, Georges Charpak, Axel Kahn, Nicole Ledouarin et bien d'autres encore. Des émissions en téléchargement gratuit sur canalacademy.com.
Nous entamons la deuxième partie de cette émission consacrée au maréchal Foch. Jean-Christophe Notin, vous venez de publier une biographie donc consacrée au personnage, une biographie parue chez Perrin. Alors, nous avons évoqué, nous avons laissé les auditeurs avec l'idée qu'il a été un peu, il a dû s'exiler en quelque sorte du fait de ses options religieuses. Est-ce que tout au long de sa vie, le caractère religieux, en tous les cas sa réputation religieuse, va parfois lui nuire dans sa carrière et dans son évolution ?
Ah oui, c'est certain. Donc ça lui a nui au moment de l'affaire des fiches. Et comment dire, il va le porter donc jusqu'en 1906, où il est rappelé par Clémenceau à la tête de la direction de l'école de guerre.
C'est là où il le rencontre pour la première fois.
Oui, c'est la rencontre des grands hommes des années 1917-18. On a des interprétations un peu diverses de la rencontre. Est-ce que Clémenceau a vraiment fait allusion justement à ses croyances religieuses ? Est-ce que c'est Foch lui-même qui en a parlé le premier ? On n'en est pas sûr. Mais donc cette appartenance religieuse, ça ne va pas trop lui peser jusqu'en 1916, lorsqu'il va être évincé, et surtout après-guerre. Clémenceau va bien entendu s'en rappeler. Et ça sera une fois de plus un sujet de querelle entre les deux hommes, mais ça c'est une querelle homérique.
Je fais un saut dans le temps et je passe directement au premier jour, en tous les cas avant la Première Guerre mondiale, enfin ce qui à l'époque était considéré comme la Grande Guerre. Je me permets de vous citer page 77. « Lancé dans une course contre la montre, officiers et dirigeants se refusent à croire que la guerre est déjà là. Après l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo, chacun veut se rassurer. Clémenceau, le 1er juillet, écrit dans son journal que la personne de François-Joseph est une garantie de la paix. Poincaré et Viviani, la session parlementaire achevée, s'en sont allés pour une tournée en Europe du Nord. Foch avouera d'ailleurs, après-guerre, que leur départ l'avait réconforté, sans quoi, de toute évidence, c'est une citation, ces deux grands hommes d'État, si bien informés, n'auraient pas ainsi quitté leur pays. Lui-même, passé le défilé du 14 juillet, croit pouvoir s'offrir un repos mérité dans sa propriété bretonne. Ce qu'il y a d'étonnant, c'est l'impréparation de la France que vous montrez très clairement. Et cette impréparation sera aussi, au fond, une impréparation militaire que l'on va observer dans les premiers mois de la guerre, parce qu'on ne peut pas appeler autre chose qu'un revers.
Oui, c'est quasiment une débâcle, hein, le début de la guerre. L'armée est très très mal préparée, mais je dirais à tout point de vue, hein, l'équipement, les fameux pantalons rouges, l'artillerie, on n'a pas d'artillerie lourde. C'est-à-dire que les Allemands peuvent frapper sans qu'on riposte à juste mesure.
C'est très important, vous parlez d'artillerie lourde, et dans la théorie de Foch, au fond, il ne prend pas en compte cette artillerie lourde. D'ailleurs, au début d'un de vos chapitres, vous comparez De Gaulle et Foch.
Et oui, c'est un des gros travers de la pensée, mais je dirais militaire française en général, de la fin du 19e, début 20e. On est toujours sur le mythe napoléonien, donc la victoire des forces morales. Donc à vrai dire, quand les forces morales sont là et si elles sont si importantes, pourquoi se soucier de la force de frappe ? Alors c'est pas aussi évident, hein, quand même Foch parle d'une attaque, mais d'une attaque préparée tout de même par l'artillerie. Mais on ne peut pas dire que, et c'est d'ailleurs un des travers de Foch, du point de vue tactique, qu'il ait très très bien vu le conflit. Et donc arrivent les premiers combats, et où évidemment toutes les lacunes françaises apparaissent. Donc du point de vue équipement, du point de vue aussi commandement, la fameuse doctrine de l'attaque qui fait des catastrophes dans les rangs français.
Vous dites « mal inspiré, mal commandé, mal équipé, telle est l'armée qui se masse aux frontières. D'une certaine manière, le cas Foch illustre ces anomalies. Il a peu connu la vie régimentaire, à peine 10 ans sur 40. »
Et oui, ça aussi, c'est un des aspects de Foch.
Mais il n'est pas le seul.
Non, 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 bien entendu. Non, 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 d'autres commandants de son niveau aussi. Hein. Et c'est valable aussi à l'étranger, c'est valable aussi chez les Allemands. Mais en effet, pour Foch, à partir donc de 1870, il intègre Polytechnique. Il fait quasiment toute sa vie ou à l'école de guerre ou dans les états-majors. Il connaît très, très peu la vie régimentaire, les hommes, hein, le contact. Il arrive en 1914 à la tête du fer de lance de l'armée française, le corps d'élite, le 20e corps. D'armée, mais il n'a jamais vu de combat.
Il y a vous parlez également de la différence, enfin de l'expérience, oui, donc l'expérience du feu, mais aussi de la différence d'âge avec les Allemands.
Oui, oui, oui. Bon, Foch donc arrive à la guerre, il a 63 ans. Les généraux allemands sont généralement plus jeunes d'une dizaine d'années, mais certains sont plus vieux. C'est vraiment une. Là, pour le coup, on peut dire que.
Qu'il n'y a pas de.
Non, c'est pas.
Alors, où se trouve Foch en 1914? Il voulait partir en retraite bretonne. Il ne peut pas partir en retraite bretonne. Où est-il nommé?
Il a été nommé dès la fin de 1913 en Lorraine. Et c'est là où l'on voit que, donc, après sa disgrâce du début du siècle, suite à l'affaire des Fiches, il est envoyé en Lorraine, qui est vraiment le fer de lance de l'armée française. C'est là d'où c'est celle qui doit mener l'attaque, suivant le fameux plan 17 français, l'attaque dans le flanc allemand. Donc il est vraiment à la tête et d'un corps d'élite, une fois de plus, avec les fameuses divisions de fer et d'acier. Il est vraiment l'élite française.
Foch, à cette époque, est connu, c'est un homme prestigieux.
Oui, oui, oui. Au sein de l'armée, c'est incontestablement une figure. C'est lui qui a forgé, pas à l'école de guerre, mais par ses livres, parce qu'il a enseigné, il a donc publié ses cours. C'est lui qui a enseigné la doctrine française. Les hommes le connaissent, enfin les officiers le connaissent très bien, se réfèrent à lui. Les politiques l'apprécient ou au contraire en ont peur, hein, toujours les conséquences de l'affaire des Fiches. Mais c'est quelqu'un d'évidemment connu.
Donc, est-ce qu'on peut dire qu'il a, au fond, une part de responsabilité dans cet échec?
Indéniablement. D'abord parce qu'il a donc forgé la doctrine française, qui s'est avérée assez désastreuse. Ensuite, par ses premiers combats, qui ne démontrent pas, c'est le moins qu'on puisse dire, une grande maestria.
Alors, donc, ça, c'est l'affaire de Morhange. Oui. Que s'est-il passé à Morhange?
Eh bien, donc, le corps de 20e corps d'armée s'enfonce comme prévu, enfin, commence à marcher suivant le plan français. La résistance allemande se montre. Le fameux grand plan de Schlieffen d'enveloppement s'amorce. La situation française est assez donc calamiteuse. Le supérieur de Foch, qui est le général de Castelnau, ordonne à Foch de s'arrêter, de faire du surplace, le soir du 19 août. Et Foch, considérant que Morhange, qui est un village, hein, mais qui a une situation stratégique assez importante, considérant donc que Morhange est à portée, lui, au contraire, décide d'attaquer, c'est-à-dire qu'il désobéit. Et c'est un revers phénoménal, puisqu'il se fait, comment dire, repousser sur des dizaines de kilomètres dans une situation très périlleuse. Et bien entendu, ça met en danger tout le 20e corps, donc la droite de l'armée française.
Alors, ça, c'est le premier épisode que vous présentez, mais il y a un épisode, lui, qui est beaucoup plus connu, c'est la question de la Marne. Et c'est un moment important parce que, en tous les cas, dans votre livre et pour l'histoire, vous jugez Foch dans ses manœuvres, mais vous nuancez votre propos. Quel est le rôle de Foch dans la bataille de la Marne?
Alors, Foch, il est entre, je dirais, il fait en quelque sorte le lien entre deux armées qui sont à sa gauche et à sa droite. Il a là aussi, normalement, un rôle de stabilisation. On lui a demandé de faire du surplace et de tenir, donc en quelque sorte, le lien entre les deux armées qui, elles, sont censées avancer, enfin manœuvrer d'une certaine façon. Et là également, Foch juge qu'on est dans les marais de Saint-Gon, juge que le terrain est tout à fait propice à une attaque. Donc il lance ses troupes à l'attaque, et là aussi, c'est c'est pas une catastrophe, mais c'est un certain revers pour Foch, qui s'est emballé. Les marais se prêtaient fort peu à une attaque. Les Allemands, non seulement partent, mais donc le repoussent, là encore, sur un certain nombre de kilomètres, et le mettent dans une position très très périlleuse, hein, puisqu'il est obligé de faire appel à sa gauche, où se trouve Franché d'Espéré, qui lui envoie une aide considérable. La situation de Foch dans la Marne est beaucoup moins brillante que ce que l'on a bien voulu en dire. Le fait que finalement il soit passé dans la légende comme un des vainqueurs de la Marne, c'est qu'il a la chance que les Allemands se retirent et que donc ses troupes ensuite s'avancent de plusieurs dizaines de kilomètres. Mais on aurait arrêté la bataille de la Marne un peu plus tôt, c'était une catastrophe pour Foch.
Vous écrivez « La Marne le fait passer à la postérité comme un maître de la contre-attaque, alors qu'elle a surtout consacré un certain art de la défense ». Qu'est-ce que vous entendez par ce certain art de la défense ?
Oui, parce que donc Foch attaque, se fait repousser par les Allemands. Et c'est là où on voit véritablement le brio de Foch, qui arrive à organiser une défense avec des troupes qui sont éparpillées, une gauche qui plie, la droite qui se disperse. Il y a la fameuse phrase qu'il n'a jamais prononcée d'ailleurs. On a plusieurs formules, mais ma gauche cède, mon centre faiblit, ma droite s'éparpille, j'attaque. Alors, non seulement ça n'a pas été dit, mais ça ne s'est pas produit tel quel. Et donc Foch, on le voit dans ces cas-là, donc de véritablement de tension, de crise, à arriver à manœuvrer magnifiquement, à prendre une de ses divisions qui est complètement sur la gauche pour l'envoyer sur la droite en plein combat. Hein, c'est quand même une prouesse. Et on le voit donc quand même tenir le terrain. Il aurait pu être, pour le coup, complètement enfoncé. On l'a vu sur d'autres points du front. Et donc finalement, il était passé à la postérité jusqu'en 1914 comme le maître de l'attaque. Et finalement, il se distingue beaucoup plus dans la défense que dans l'attaque.
Alors justement, est-ce que au fond, il ne nuance pas sa théorie par tout simplement la pratique ?
Oui.
Et est-ce qu'il arrive à tirer les leçons de cette absence de pratique que vous évoquiez tout à l'heure ?
À vrai dire, pas vraiment, hein, pas tout de suite.
Pas tout de suite.
Et non, pas tout de suite. Donc, Morange, c'est le 20 août, les Saint-Gon, c'est début septembre. Donc, entre les deux, il n'a pas changé de tactique, hein, il continue à attaquer. On le voit ensuite toujours prôner l'attaque fin 14, 15. Il lui faudra bien, je dirais, 2 ans pour commencer à changer de tactique. Et ensuite, changer de stratégie, il faut attendre carrément 18. C'est un long processus.
Mais alors, à vous lire, en fait, et là, je suis, j'allais dire, au tiers de votre ouvrage, hein, un peu moins qu'au tiers, j'écrivais dans mes notes ce qui lui nuit à ce personnage, c'est son caractère, cette volonté, mais ce qu'il sauve et ce qui fait son succès, c'est également son caractère et sa volonté d'avancer. Et il apparaît comme le personnage qui n'abandonne jamais. Et c'est en cela que c'est un personnage positif, notamment vis-à-vis des soldats.
Ah oui, c'est le point principal, je crois, qu'il faudra lui attribuer pour la guerre. C'est vraiment l'incarnation de la foi en la victoire. Il y croit toujours, tous les jours, pendant 5 ans de guerre. J'ai cherché dans toute sa correspondance nombreuse avec sa femme, il écrivait tous les jours. J'ai cherché la phrase où il aurait dit « vraiment, j'en peux plus, on va perdre ». Il ne l'a jamais écrit. C'est tous les jours, on va gagner, quoi qu'il se passe, quel que soit le nombre de morts, dont il se soucie d'ailleurs peu, quoi qu'on puisse lui dire, on va gagner. Et c'est ce qui explique son succès auprès des politiques, mais plutôt dans les années 16-17. Dans les années 14-15, évidemment, quand il dit « on va gagner », et que les politiques voient que tous les jours, c'est 20 000 morts, 30 000 morts... On commence à penser qu'il est passablement, pas suroptimiste, mais complètement à côté de la plaque.
Il est envoyé, après la Marne, il est dans le Nord. Et là encore, on retrouve cette volonté, mais on retrouve un personnage qui est donc à côté des Belges et à côté des Britanniques. Et tout à l'heure, dans l'évocation des sources, vous évoquiez la source anglaise, mais il y a aussi la source belge que vous avez exploitée.
Oui.
On découvre un Foch qui a beaucoup de tact avec les alliés.
Oui, ça c'est assez extraordinaire. Ça mériterait d'être étudié de manière point de vue psychologique. Autant Foch est assez dur et ferme avec son entourage, son état-major, autant avec les alliés, il fait montre d'une diplomatie extraordinaire. Il ne leur donne quasiment jamais aucun ordre. Il va toujours dans le sens du poil, enfin en avançant bien entendu ce qu'il voudrait qu'il fasse. Et c'est ce qui fait son succès immédiat auprès des alliés, même avant-guerre, parce qu'il a commencé à côtoyer les Britanniques dès les années 10-11. Il est réputé pour ça, comme étant donc très attentif à leurs besoins, qui sont nombreux. La situation des Anglais et des Belges, surtout, est très très mauvaise à la fin de l'année 14. Et alors, il passe à la postérité auprès de ses alliés, donc comme étant le général français auquel on peut se confier. Ça, c'est tout à fait surprenant du point de vue psychologique.
Jean-Christophe Notin, nous nous retrouvons dans un instant.
Un jour dans l'histoire revient sur le sac du Palais d'été qui s'est déroulé en octobre 1860. Pourquoi le Palais d'été des empereurs A-t-il été pillé, saccagé, puis brûlé à l'issue d'une expédition militaire franco-anglaise? Réponse en compagnie de l'historien Bernard Brisé sur Canal Academy, une émission libre écoute et libre téléchargement.
Je reçois Jean-Christophe Notin, auteur d'une biographie consacrée au maréchal Foch, une biographie parue aux éditions Perrin. Alors, nous sommes en pleine guerre, Jean-Christophe Notin, et il y a dans cette guerre plusieurs temps, plusieurs époques. Et donc, nous avons vu l'époque des débuts, l'époque de la Marne. Nous avons vu le Nord, la bataille du Nord, où véritablement on sent cette volonté farouche, cette espérance, et cette foi en la victoire. En 1916, en revanche, il y a un coup d'arrêt. Comment expliquer ce que l'on appellera tout simplement une disgrâce? Là encore, vous vous situez, j'allais dire, en contradiction avec ce qui a pu être écrit jusqu'à présent par les hagiographes.
Oui, c'est tout le problème des hagiographes, c'est que évidemment ils jugent leur personnage au résultat final, j'allais dire, donc en sachant que Foch est le vainqueur 18. Donc ils essaient de réinterpréter tous ces faits et gestes en le montrant génial à tout moment, comme quoi il avait tout vu. Or, force est de constater que jusqu'en 1916, Foch, c'est revers sur revers du point de vue militaire. Alors, une fois de plus, il est très bon dans les relations avec les alliés, ça c'est très utile quand même du point de vue français. Mais du point de vue militaire, toutes les batailles qu'il conduit, que ce soit en 15, en 16, donc l'Artois, la Somme, militairement parlant, ce sont des échecs. Donc ça, évidemment, les politiques le jugent très très mal. Et on va sortir petit à petit donc ce fameux prétexte de la santé de Foch. Enfin, les hagiographes vont le présenter comme étant la raison principale pour laquelle il aurait été démis. En fait, la raison principale, ce sont les échecs de Foch, que ce soit du point de vue doctrinaire, du point de vue tactique, stratégique. Les politiques en ont assez. Il n'est plus couvert par Joffre, qui essaie lui-même de se sauver. Donc, il saute à la fin de l'année 1916.
Vous parlez également de l'opposition entre Foch et Castelnau.
Oui, alors ça, c'est assez aussi singulier. C'était deux amis avant 1914. Leur haine, on peut parler de haine, commence donc à Morange, parce que Foch ne va toujours refuser d'admettre qu'il a désobéi aux ordres de Castelnau. Donc évidemment, s'il refuse d'obéir, de dire qu'il l'a désobéi, c'est que Castelnau avait fait la faute. Donc Castelnau, évidemment, lui en veut à mort dès l'année 14, d'autant que Foch revient auprès de lui dans le nord, là où Castelnau est affecté, le fait passer pour, on ne peut pas dire une poule mouillée, mais pour un type qui se débine. Mmh. Donc ça, évidemment, Castelnau, il n'apprécie pas trop. Et pas de chance pour Foch. Foch donc, voit son étoile légèrement déclinée. Et au contraire, Castelnau remonte dans l'estime de Joffre en 1915. Donc Castelnau va le faire payer à Foch. Mmh. Castelnau est en partie responsable aussi de l'éviction de Foch en la fin 1916. Mmh. Et la haine perdurera après-guerre par journaux interposés. Ils vont s'en envoyer des vertes et des pas mûres, surtout Foch d'ailleurs. Castelnau reste très extérieur, il ne veut pas de déballage. Mais on trouve dans les archives, ces fameuses archives qui ont été très peu exploitées, il y a un fonds considérable Castelnau, des commentaires cinglants de Castelnau sur Foch et sa désobéissance de Morange et sa manière parfois de tirer la couverture à lui.
Alors malgré tout, donc il y a une certaine traversée du désert entre guillemets, mais il y a un retour sur la scène militaire. Comment expliquer ce retour?
Parce que Foch est très habile. Alors, contrairement à tout ce qu'il a voulu dire ensuite et écrit après-guerre ou même avant-guerre, il dit toujours j'ai la détestation du milieu politique, jamais je m'en mêle, moi je suis extérieur à tout ça.
Alors que vous le voyez,
il est allé voir Clémenceau dès l'année 15, il envoie ses hommes à lui qui ont fait partie de l'état-major, il a eu des députés, donc il les fait parler pour lui. Et donc c'est tout ce petit milieu qui va réussir à convaincre le milieu politique que quand même ça serait bête de s'en séparer. Il réussit quand même la prouesse de ne pas être limogé, dire envoyé à Limoges textuellement, comme la plupart de ses confrères de la Première Guerre. Lui, il n'est que sans lycée, il est envoyé à Senlis, donc pas trop loin du front. Et de là, il peut toujours se présenter comme étant un homme utile.
Alors comment réussit réussit-il à revenir ?
Donc, il est rappelé par Pétain et Painlevé, qui est à l'époque donc ministre de la guerre. C'est suite à la désastreuse affaire du chemin des dames. Nivelle, qui est commandant en chef, donc perd sa place. Il est démis. Pour le coup, il est pas limogé, il est algérisé, il est envoyé à Alger. Et c'est Pétain qui arrive donc à la tête du commandement en chef. Et il manque un homme, donc, ce qu'on appelait le chef d'état-major général, qui est en fait plus ou moins une sorte de conseiller technique du ministre de la guerre, qui est Painlevé. Et Pétain donc propose Foch pour différentes raisons. Et donc Foch accepte et se retrouve donc chef d'état-major général, qui est un poste militairement parlant pour une période de guerre. Peu puissant, il a peu d'éléments en main, mais c'est essentiellement un élément de nuisance, en essayant d'orienter, bien entendu, ce que peut penser le ministre de la guerre.
Après cela, il y a le sacre, au fond, c'est le commandement unique. Et il y a deux temps dans votre ouvrage, en tous les cas, je l'ai ressenti tel quel, c'est que vous minimisez l'importance de la chose lors de la fameuse réunion de Doullens que vous allez nous présenter. Mais après, vous le montrez finalement, tout de même, et nous évoquions tout à l'heure les alliés, en habile manœuvrier.
Oui, mais une fois de plus, c'est la part de la légende. Si vous allez à la mairie de Doullens, à l'hôtel de ville, dans la salle où a eu lieu donc la fameuse réunion où Foch a été, entre guillemets, hein, parce que ce n'est pas tout à fait exact, nommé commandant unique, vous avez un vitrail. C'est-à-dire que c'est vraiment représenté comme étant la scène, en quelque sorte, alliée, où tous les grands chefs se sont réunis pour élire un peu l'apôtre des armées alliées. En fait, c'est pas du tout ça. Hein. Foch donc devient chef d'état-major général. Il est mis à l'épreuve par les politiques pour essayer de voir donc qu'est-ce qu'il vaut. Il s'en tire très bien dans différentes affaires, en particulier avec les Italiens. Il montre que donc il n'est pas à la botte non plus, mais enfin il est au service des politiques. Et donc quand arrive la fameuse défaite, on peut parler de défaite du 21 mars 18, les Allemands attaquent. Le front allié est en lambeaux du côté britannique. On craint vraiment une rupture entre Britanniques et Français. Il faut trouver quelqu'un pour essayer d'un peu de sauver la situation en urgence. Et évidemment, c'est le nom de Foch qui va un peu monter à la surface, comme ça, poussé par différents chefs et alliés. C'est là où on voit l'importance de toute son action auprès des alliés avant-guerre et pendant la guerre, et Français. Puisque Pétain s'efface, Clémenceau pousse à fond Foch, et Foch donc se retrouve en fait à la tête, non pas du commandement unique, mais de la réserve, de la coordination, je dirais, des forces pouvant essayer de résorber le trou entre Français et Anglais, ce qui quand même diminue un peu fortement la légende du commandant unique, omniscient, omnipotent sur tous les fronts. Ça ne viendra vraiment
qu'après.
Que bien après, Foch justement se rend compte très vite qu'il a peu de pouvoir. Donc il obtient petit à petit que ce ne soit plus un rôle de coordination, mais de direction stratégique, que son pouvoir s'étende à différents fronts. Et puis après, donc, il fait montre, là, pour le coup, de le triomphe de la volonté. Là, c'est vraiment ça revient en force. C'est le moment, je dirais. C'est dans l'élan, dans le sens de l'histoire.
Pour montrer cette ambivalence, il y a une phrase de Clémenceau que vous citez. Clémenceau dit « Je me suis dit, essayons Foch. Au moins, nous mourrons le fusil à la main. J'ai laissé cet homme sensé plein de raisons qui était Pétain. J'ai adopté ce fou qui était Foch. C'est le fou qui nous a tirés de là. » Alors, je ne vais pas dire qu'entre fous, on se reconnaît, mais Clémenceau, il y a une part de folie, entre guillemets, dans sa volonté, dans son désir. C'est-à-dire, en l'occurrence, une saine folie, celle d'à tout prix obtenir les choses, et ce qui permettra après d'obtenir la victoire. Donc, il juge un peu facilement Foch.
Ah oui, je dirais qu'ils sont en symbiose complète. Ouais. D'ailleurs, je cite un morceau de texte de Clémenceau. Vraiment, Foch aurait pu écrire littéralement la même chose. Ils sont sur la même ligne. Pour le coup,
Clémenceau... Qui se ressemble, ça semble. Voilà.
Mais alors que Clémenceau n'est pas du tout de même formation. On retrouve tout à fait le thème ignatien là, de la fin et des moyens. Il se retrouve, il faut vaincre, la France va vaincre. Donc allons-y gaiement, quels que soient les moyens. Et il se retrouve de manière tout à fait magnifique. Mais maintenant, il faut relativiser, parce qu'il dit fou, mais il le dit après-guerre.
Ouais.
Au moment de... Il va y avoir une grosse querelle liée au traité de Versailles. Donc je pense pas qu'à l'époque il aurait parlé de fou. Il aurait parlé d'homme à son image.
Alors je parlais d'ambivalence, donc il y a cette phrase, et puis de l'autre côté il y a ce mot de Foch lui-même qui disait, à la suite donc de la nomination de Doulan, qui est à relativiser, vous l'avez présenté, « Je ne me suis préoccupé ni des on-dit, ni des qu'en dira-t-on », racontera-t-il donc au chanoine Briel. « J'ai dit au Saint-Esprit, inspirez-moi ce que je dois faire, puis je me suis demandé que faut-il faire ». Donc il y a le sentiment religieux, mais il y a toujours cette volonté d'avancer, et c'est ce qu'il va faire, puisqu'il va réussir à avoir davantage de pouvoir que ce qu'il a à ce jour, au moment de Doulan.
Oui, exactement. Foch, c'est véritablement la rencontre du destin d'un pays et de la destinée d'un homme. Dire, Foch aurait dû être limogé, disparaître en 1916, mais les circonstances, les batailles, l'évolution mondiale 17-18 font que les circonstances lui sont favorables. On a besoin à ce moment-là d'un homme à son image, énergique, enflammé, limite aveugle. Et c'est comme ça qu'il se retrouve au premier plan, alors qu'il aurait dû disparaître, hein, comme nombre de ses camarades.
Jean-Christophe Totin, nous arrivons peu à peu au terme de cette émission. Je voudrais ne pas laisser nos auditeurs sans évoquer une question qui est une question majeure à l'époque, et vous veniez d'ailleurs de l'esquisser, mais d'y faire allusion. Il y a cette opposition entre Clémenceau après la guerre, entre Clémenceau et Foch, sur la question du traité de Versailles, puisque le traité de Versailles garde l'intégrité allemande telle qu'elle est, alors que Foch, lui, souhaiterait tout simplement que l'on avance davantage sur le Rhin.
Et oui, dès octobre 18, c'est la fin de l'idylle Clémenceau-Foch. On sent le combat se terminer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de la paix ? Foch veut absolument, c'est la condition sine qua non, à la limite, il ne voudrait rien d'autre, c'est l'occupation de la rive gauche du Rhin, pour en quelque sorte faire un rempart de poitrine, véritablement, hein, au sens premier du terme, à une future invasion allemande. Et Clémenceau, lui, qui est un politique, est au contact des chefs de gouvernement alliés. Alors je ne sais pas si dans le fond il est entièrement en désaccord avec lui, mais enfin en tout cas il voit que les chefs alliés, eux, n'en voudront jamais, les Britanniques, il n'en est pas question, les Américains encore moins, ils veulent rentrer au pays. Et donc ça, Foch le ressent peu, il a peu de feeling, j'allais dire, politique. Il ne sent pas que Clémenceau, il est vraiment sur le fil du rasoir. Il ne sent pas qu'on aurait pu aller à la rupture. Je sais que d'autres ont pu penser que ça aurait pu être moins dangereux que ce qu'on a pu dire, ce que Clémenceau craignait, mais que Foch craignait, mais toujours est-il que donc Foch ne comprend pas les contingences de Clémenceau, et d'où la rupture. Hein. Il y a des scènes tout à fait fantastiques. Foch va utiliser tous les moyens à sa disposition pour essayer de donc non seulement d'obtenir l'occupation de la rive gauche du Rhin, mais puisqu'il voit que ça va mal passer, il va essayer de tout faire pour que le traité capote et qu'il n'y ait pas de traité, et que donc en fait les choses en restent en l'état et que au moins les apparences militaires soient sauvées.
Si on pouvait définir ce Foch d'après-guerre en quelques mots.
Alors, toujours aussi enflammé, dynamique du point de vue de la pensée. Hein. Il s'accroche à la rive gauche du Rhin comme il s'accrochait autrefois à l'attaque décisive. Il ne voit que ça, même quand il ne va pas l'obtenir ou l'obtenir partiellement, parce que c'est une occupation que sur 15 ans. Il va continuer à en parler à tous les hommes autour de lui. Donc il va poursuivre ensuite Clémenceau de sa vengeance. Il va le faire en partie. C'est en partie à cause de Foch que Clémenceau n'est pas élu président de la République. Et puis on le voit ensuite déterminé. Donc finalement, c'est pas la rive gauche du Rhin. Donc il va se tourner du côté des soviets. Il a la haine du bolchevique. Donc il va tout faire pour également établir un cordon sanitaire en Europe. Il a aussi la haine de l'islamisme, enfin ce qu'il appelle l'islamisme. Enfin, c'est la Turquie, le Levant, l'Égypte. Il a peur de la fin des empires. Mais toujours avec la même force, la même conviction jusqu'à la fin, jusqu'à 5-6 mois avant sa mort. Toujours aussi dynamique, des discours, des articles qui paraissent de manière anonyme, alors que c'est lui ou son état-major, mais qui sont très incendiaires sur la politique gouvernementale, toujours aussi influents auprès des milieux politiques. Bref, il ne lâche rien. Foch reste Foch jusqu'à la fin de sa vie.
Vous posez la question de savoir si, au fond, n'était-il pas un nouveau Bonaparte ?
Et oui, c'est un peu ce qu'on pensait. D'ailleurs, d'abord, c'est ce qu'il a écrit lui pendant la guerre. Il s'est posé ouvertement dans un courrier. Il se pose la question, est-ce qu'à la fin de la guerre, il ne faudra pas un Gambetta, voire un Bonaparte pour relancer le pays, un général, quelqu'un d'autorité. Et donc la guerre se termine, les élections se présentent et certains pensent qu'en effet, il pourrait être cet homme-là. Alors je pense pas que ça colle au personnage. Il a beaucoup de... comment dire, il a peu d'aspérité avec la politique. Jamais il se serait fait élire, donc ça aurait été pour le coup un vrai bonapartiste. Mais il n'a pas cette fibre non plus, j'allais dire quasi insurrectionnelle. C'est quand même, il est très, comment dire, déférent vis-à-vis de la République, des honneurs, chacun à sa place. Donc il est rentré dans sa retraite bretonne et il n'est pas devenu le Bonaparte que l'on aurait pu croire.
Vous écrivez, Foch n'était certainement pas le meilleur stratège du conflit. Donc là, nous parlons bien évidemment de l'aspect militaire. Encore moins le meilleur tacticien. Mais il a incarné et fait vivre ce lien aussi indispensable que fragile entre la France et la Grande-Bretagne, puis l'Italie, les États-Unis et l'ensemble des nations alliées. Et on garde, au sortir de la lecture de votre biographie, on garde l'image d'un homme qui a su, au fond, fédérer à la fois des nations sur le plan militaire, mais aussi tout simplement un meneur d'hommes qui a su donner une image, l'image, lui, d'un homme qui n'abandonne pas et qui amène cette image, au fond, positive à tous les soldats.
Oui, c'est ce qu'il faut, je crois, retenir de Foch, de la Première Guerre, donc de toute son histoire. Ça a été le fédérateur, le porteur d'énergie, vraiment l'incarnation de la foi, de la victoire française, de l'audace, de toutes les qualités, j'allais dire, positives, militairement parlant. Et surtout, ce rôle qui est oublié de nos jours, ce rôle de fédérateur auprès des alliés, parce que ceux qui pouvaient ne pas avoir trop d'importance en 14, les Anglais représentaient, je ne sais plus les chiffres, mais ça doit être 100 000 ou 200 000 hommes. À la fin de la guerre 18, les Français ne représentent plus qu'à peu près 40% de l'effectif. Donc il y a des millions de Britanniques, des millions d'Américains. C'est un rôle fondamental. Si Foch ne l'avait pas rempli, on aurait très bien pu courir à des catastrophes au milieu de l'année 18. C'est un rôle phénoménal, très important et très précurseur. Puisqu'à l'époque, très très peu étaient dans cette optique. Il a vraiment innové, il a anticipé ce qu'on va voir pendant la Seconde Guerre mondiale et les conflits récents.
C'est Pétain qui, vous terminez d'ailleurs sur son mot, qui le qualifie de réveilleur d'énergie.
Oui, c'est exactement ça. C'est, là, une fois de plus, l'incarnation. Certains, je sais, des hagiographes ont vu dans l'étymologie de Foch le foyer. C'est vraiment ça, c'est vraiment le foyer de l'âme française, la résistance, je dirais presque le soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe, c'est la flamme de la victoire.
Une certaine manière d'être français.
Ah oui, et c'est pour ça que De Gaulle s'en est très inspiré, on l'a vu pendant la Seconde Guerre mondiale, faire référence très souvent à Foch.
Eh bien, merci beaucoup, Jean-Christophe Notin, d'être venu au micro d'un jour dans l'histoire.
Merci à vous.
Je rappelle les références de votre ouvrage, donc le Foch, une biographie parue aux éditions Perrin. Je renvoie nos auditeurs également à l'autre émission que nous avons enregistrée ensemble, donc sur la campagne française en Allemagne, donc qui termine la Deuxième Guerre mondiale. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Et à très bientôt pour un nouveau numéro d'un jour dans l'histoire.